Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à notre émission Présence luthérienne. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir le pasteur Frédéric Fournier. Frédéric Fournier, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Fournier, vous êtes pasteur luthérien à la paroisse Saint-Marc de Massy.
C'est exact.
Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler de la méditation chrétienne. Alors peut-être une première question, la méditation chrétienne, c'est quoi ?
Alors imaginez que je vous invite chez moi. Et puis que la radio est très très forte, et quand on va se parler, on ne va pas pouvoir s'entendre. Donc pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir dialoguer ensemble, on va être obligé de baisser le son de la radio. Et la méditation, c'est ça. C'est-à-dire pour pouvoir entendre Dieu, pour pouvoir être en communion avec lui, il faut baisser le son du mental. Alors on ne peut pas s'arrêter de penser, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, baisser le son du mental pour pouvoir entendre Dieu, faire l'expérience de Dieu. Vous savez, l'histoire d'Élie qui monte sur le mont Horeb, et Dieu dit qu'il va se manifester à lui. Alors il y a le tonnerre, il n'est pas dans le tonnerre, il y a la tempête, le feu, il n'est pas dans tout cela. Mais il est dans un fin murmure, on nous dit, dans ce silence. Dieu, c'est ça, la méditation chrétienne, c'est Dieu qui se manifeste dans le silence.
D'accord, très bien. Donc, est-ce qu'il y a une histoire de cette méditation chrétienne ?
Oui, bien sûr, ça, je veux dire, ça tombe pas, c'est pas une invention, j'allais dire...
C'est pas contemporain.
Humaine, non, pas du tout. Je pense que déjà, il y a deux principes bibliques. La méditation chrétienne prend sa source dans la Bible. Quand Paul nous dit dans la première aux Corinthiens que nous sommes le sanctuaire de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous, déjà... Il y a un des principes de la méditation chrétienne qui dit que il s'agit de plonger à l'intérieur de nous pour communier avec Dieu. Dieu n'est pas simplement extérieur, mais aussi intérieur. Et puis, il y a une deuxième source biblique, c'est quand Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, il nous invite à nous retirer, dans la pièce la plus retirée, de fermer la porte. Alors ça, on pourrait aussi symboliquement interpréter que la pièce la plus retirée, c'est notre cœur aussi. Et puis, juste après, il nous dit, voilà, ne rabâchez pas, comme les païens. La méditation, c'est aussi une économie de mots. C'est-à-dire une économie en tout cas, une économie de mots pour plonger à l'intérieur de nous-mêmes et communier avec Dieu. Donc déjà dans la Bible on voit cela en tout cas.
Donc en fait on voit ça chez Paul, vous avez dit,
oui,
aussi dans les évangiles.
Dans les évangiles.
Est-ce qu'on peut le voir dans la vie de Jésus par exemple qui lui-même parfois, vous savez, est suivi par les foules et parfois il se retire des foules pour aller prier son Père. Est-ce que c'est aussi peut-être
Se retirer en tout cas, avoir ce moment de retrait quand effectivement il n'est pas toujours dans l'activité mais il se retire. Des fois on dit sur une montagne.
Oui.
Et donc c'est cela, je dirais, c'est se retirer dans la montagne de son cœur. Mais il n'y a pas que dans les évangiles, très, très rapidement dans l'histoire de l'Église, les pères du désert, ces pères du désert, ce sont des chrétiens absolument passionnés de Dieu, en Orient, en Égypte, en Syrie, qui se retirent dans les déserts pour... être dans le silence, pour être isolés et pour pouvoir approfondir leur vie spirituelle.
Donc ils ne sont pas en communauté, ils sont seuls.
Alors ils sont seuls, mais les plus jeunes vont retrouver les plus anciens, les pères justement, pour leur demander des conseils.
D'accord.
Qu'on appelle les apophthegmes. Et ils nous donnent des conseils qui sont de l'ordre de la méditation. Par exemple, Saint Macaire, qui est un père du désert du IVe siècle, conseille de ruminer le nom de Jésus. C'est ça. On n'est pas du tout dans l'abondance des paroles, avec des prières très longues, très compliquées, mais simplement de ruminer le nom de Jésus comme une brebis. Et il conseille à ceux qui vont le voir de rester assis dans leur cellule, donc l'importance de la posture, de l'assise, et de poser leurs pensées sur Dieu. Donc là, vraiment, on est dans des conseils très concrets d'ordre méditatif. Vous avez, par exemple, Jean Climac, 6e, 7e siècle, qui conseille de réciter le nom de Jésus en le calant sur le souffle. Donc, très rapidement, dans l'histoire de l'Église, on retrouve ça tout au long, même au Moyen-Âge. Par exemple, vous avez un chartreux anonyme anglais du XIVe siècle qui dit la chose suivante. Hein. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le nuage de l'inconnaissance ». Il dit, voilà, Dieu, tu ne peux pas le connaître tel qu'il est. Il y a un nuage qui te sépare de lui, comme Moïse quand il était en haut de la montagne. Mais tu peux percer ce nuage en chassant les pensées. Simplement, tu choisis un mot très court et puis tu le redis sans cesse.
Mais de façon intérieure.
De façon intérieure. Et quand des pensées surgissent...
Pas le dire à haute voix, mais le dire à l'intérieur de soi.
Il ne précise pas, mais j'allais dire qu'importe. C'est-à-dire, on est vraiment dans l'économie de mots pour apaiser le flou des pensées. Il dit, s'il y a une pensée qui surgit, tu dis ce mot-là. Hein? C'est, voilà, apaiser les pensées pour pouvoir être en communion avec Dieu. Et puis, une dernière figure hein, que je pourrais citer, c'est Madame Guyon, une mystique du XVIIe, XVIIIe siècle, française, qui invite à pas simplement réfléchir quand on lit un écrit spirituel, mais un certain moment, de s'arrêter et de plonger à l'intérieur de soi, dans son temple, elle dit, hein, dans son temple, pour vraiment être en communion avec cette présence de Dieu. Elle a écrit un ouvrage, Le Moyen Court, hein, de Faire Horizon, où elle donne tas de conseils, justement, pour... Alors, elle n'emploie pas le terme méditer, comme nous l'employons, mais en tout cas, pour apaiser le flot des pensées, pour être en communion avec Dieu. Et notons qu'elle est très intéressante, cette mystique, c'est qu'elle a beaucoup influencé le protestantisme.
Alors justement, c'est une question qui est dans mon esprit depuis le début de cette historique de la méditation très intéressante que vous avez fait partir des évangiles, avec les pères de l'Église, le Moyen-Âge, le XVIIe siècle. Mais dans le protestantisme, cette idée finalement de silence et d'économie de mots, comment est-ce que ça marche en protestantisme? Parce que le protestantisme, c'est quand même la religion de la parole, de la prédication. Souvent, dans nos temples et nos églises, les moments de silence sont quand même relativement rares entre la prédication et les cantiques. En protestantisme, comment ça marche? Est-ce qu'il y a eu dans le protestantisme, ou il y a dans le protestantisme des traditions méditatives? Je pense notamment peut-être influencées par les mystiques rhénans. Est-ce que...
Oui, absolument. Il y a eu, je pense, au courant des Quakers.
Tout à fait, oui.
Le courant des Quakers, où le culte se passe normalement en silence. Vous avez un théologien Quakers, je crois que c'est Parker, hein, qui dit la chose suivante quand il décrit le culte Quaker. Il dit, voilà, que les fidèles, en tout cas les chrétiens, qu'ils s'asseyent avec une tranquillité pure dans le silence de toute la chair et qu'ils attendent dans la lumière. C'est vraiment cela. Hein, être dans le silence. Être dans le silence. Et il rajoute, ceux dont l'esprit est amené à une attente pure et tranquille de Dieu s'approchent plus près du Seigneur que ne le font les paroles. Tout est dit. Dans le silence, on peut aussi communier avec Dieu.
D'accord, donc même dans le protestantisme, il y a une tradition du silence, de la méditation, de l'économie de mots.
Absolument.
Par exemple, dans le protestantisme quaker, aussi présent en France d'ailleurs.
Absolument.
Merci beaucoup en tout cas pour cette historique, on va continuer notre conversation ensemble après un court extrait musical méditatif justement. Jésus le Christ, lumière intérieure. C'est un extrait musical de la communauté de Thésée. Est-ce que c'est méditatif?
La communauté de Thésée est méditative. Vous avez des offices le matin et le soir, et il y a une dizaine de minutes de silence, justement pour plonger, voir cette lumière intérieure. Donc il y a vraiment une valorisation du silence. Et notons que la communauté de Thésée avait, pour origine en tout cas, des protestants.
Le frère Roger, je crois.
Absolument.
Luthérien, d'ailleurs. Je ne sais plus. Bon, peut-être pas. Aujourd'hui, cette méditation chrétienne, comment est-ce qu'elle se pratique? Où est-ce qu'elle se pratique? Est-ce qu'il y a différents types de méditation chrétienne? Est-ce qu'il y a une seule manière de faire? Peut-être qu'il y a plusieurs manières de faire, puisqu'on a vu qu'il y avait une tradition quaker qui est sans doute différente de la tradition de Thésée. Comment est-ce qu'elle se fait aujourd'hui, cette méditation chrétienne?
Déjà dire qu'elle a été oubliée, malheureusement.
Oubliée dans tout le christianisme ou seulement
en tout cas
chez
dans le christianisme occidental.
D'accord.
Dans la mesure où on a plutôt valorisé l'action que la mystique, avec la condamnation par Rome du quiétisme. Vous savez, dans le quiétisme, on valorise énormément la passivité devant Dieu. Bon, il y a eu une nette condamnation, et cela a valorisé plutôt l'action par rapport à la méditation, on va dire. En tout cas, même si c'est tombé dans l'oubli, la force des choses a fait que dans la chrétienté, on était obligé de s'y réintéresser. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, 70, un certain nombre de nos contemporains se sont tournés vers le bouddhisme, vers l'hindouisme, où il y a eu une série de maîtres spirituels hindous et bouddhistes qui sont venus en Occident, bon, notamment avec la crise au Tibet qu'il y a eu. Et du coup, beaucoup ont cherché notamment de la méditation, c'est-à-dire à faire silence en eux-mêmes pour découvrir cette dimension ultime. Et cela, malheureusement, était tombé dans l'oubli. Donc du coup, le christianisme occidental a été contraint de retrouver de cette tradition qu'il avait mis sous le boisseau. Donc on pourrait dire que ça a eu quelque part un effet positif.
Cette confrontation avec d'autres traditions religieuses, voilà, a permis au christianisme de retrouver sa propre tradition méditative.
Exactement. Et là, vous avez quelques noms, notamment Thomas Keating, qui est un cistercien, décédé il y a très peu de temps, qui a voulu remettre en avant la méthode proposée par le nuage de la connaissance dont je parlais tout à l'heure. Donc il l'a remise de manière très, très actuelle. Vous avez eu un bénédictin, John Maine, qui a créé une communauté chrétienne des méditants mondiales ou mondiaux, je me souviens plus exactement, donc sa méditation consiste à réciter un nom intérieurement, Maranatha, pour pouvoir justement s'intérioriser, pour pouvoir faire cette économie de mots et communier au divin. Donc il y a vraiment... Et puis il y a eu, dans le catholicisme, notamment la redécouverte de l'oraison carmélitaine. Elle n'était pas oubliée, en tout cas pour les carmélites, mais en tout cas qui a été rendue accessible aux laïcs. Et l'oraison carmélitaine, c'est vraiment cela, c'est faire le silence intérieur pour communier avec Dieu.
Et est-ce que la Lectio Divina, qui aujourd'hui, même dans les communautés protestantes, je pense notamment aux communautés protestantes au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a un retour à ce qu'ils appellent les anciennes pratiques spirituelles, notamment la Lectio Divina. Est-ce que ces anciennes pratiques spirituelles, dont la Lectio Divina, entrent dans ce cadre de la méditation chrétienne?
En partie. Dans la Lectio Divina, il y a plusieurs étapes. Il y a quatre étapes. Hein. D'abord, où on lit le texte, hein, c'est la lectio. Puis vous avez une deuxième étape qui est la méditatio. Alors là, pas, pas prendre au sens de méditer, faire le silence, mais plutôt de réfléchir sur le sens du texte. Puis vous avez une troisième étape qui est l'oratio, la prière, c'est-à-dire par rapport à ce que Dieu m'a dit à travers le texte. Qu'est-ce que moi j'ai envie de lui dire dans la prière? Et vous avez une quatrième étape qui est la contemplation, où là on est vraiment dans cette communion avec Dieu, dans l'absence de mots. Donc là, oui, cette étape, c'est vraiment, on peut dire, une méditation chrétienne dans le sens où je l'ai définie tout à l'heure.
Avec une écoute de Dieu et une économie des mots de la part du priant.
Absolument, finalement. Hein, quand on est en face d'un paysage, on est absolument subjugué, il n'y a plus de mots. On est absorbé par ce paysage. Dans la contemplation, on est comme absorbé par Dieu. Et donc, ces pratiques reviennent fort heureusement dans le christianisme, y compris dans le protestantisme. Et vous avez, j'ai parlé tout à l'heure de catholiques avec John Maine, Thomas Keating, mais vous avez aussi des protestants qui se sont beaucoup intéressés à la mystique, à la méditation. Je pense à Karl Keller, qui a été un professeur d'exégèse, mais qui s'est beaucoup intéressé à la méditation et à la mystique, qui a, bon, maintenant il est décédé, mais il avait créé des groupes. Et puis vous avez Michel Cornu, qui est un pasteur maintenant en Suisse, qui s'intéresse beaucoup à la mystique et à cette dimension de silence.
Donc finalement, la méditation chrétienne, il y a aussi peut-être un axe œcuménique dans la méditation chrétienne, dans le sens que cela peut rassembler des chrétiens de diverses traditions,
absolument,
catholiques et protestants, par
absolument.
Exemple.
Absolument, quand on est dans le silence, dans ce cœur à cœur avec Dieu, on est au-delà des différences dogmatiques.
D'accord, très bien, merci beaucoup pour ces précisions sur la méditation chrétienne aujourd'hui, son retour. On va écouter un deuxième extrait musical et ensuite nous allons poursuivre notre discussion, Frédéric Fournier.
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut.
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. Et donc cette phrase est répétée encore et encore pendant ce chant, durant ce chant de la communauté de Thésée. Là encore, nous sommes dans la méditation finalement, puisqu'il y a une économie des mots.
Absolument.
Les mots qui sont toujours les mêmes et qui sont répétés et répétés pour finalement appeler la présence de Dieu ou la reconnaître en soi.
En tout cas, cette répétition favorise un calme intérieur, je pense. Et en tout cas, dans cet extrait là du psaume là qui est chanté, mon âme se repose en Dieu seul, de lui vient mon salut. Tout est dit déjà dans la méditation. La méditation, on n'est pas dans l'action, on est dans un repos de l'esprit. Mais c'est dans ce repos que vient le salut, que vient cette communion avec Dieu.
Mais finalement, on est en pleine théologie de la grâce. Puisque finalement, absolument, on ne fait rien. On attend, on est juste passif devant l'action de Dieu. Donc c'est finalement très compatible avec le luthéranisme ou la théologie luthérienne.
Absolument. C'est, la méditation, c'est une ouverture à la grâce. C'est ça. Ce n'est pas un effort. Il ne s'agit pas de faire des efforts. Il s'agit simplement d'être ouvert à la grâce et à Dieu. C'est cela, la méditation.
Alors, aujourd'hui, concrètement, là, nous avons vu ensemble, nous avons essayé de définir ce qu'est la méditation chrétienne. Vous nous avez fait un historique de la méditation chrétienne à travers les textes du Nouveau Testament, l'exemple de Jésus, à travers les pères de l'Église, la théologie du Moyen-Âge, le XVIIe siècle, et puis un retour de la méditation plus contemporain. Mais concrètement, aujourd'hui, si je veux méditer, si je veux pratiquer la méditation chrétienne, comment est-ce que je peux faire ?
Je pense qu'il est bon de commencer, si on a la possibilité, par une retraite. Une retraite de méditation chrétienne. Il en existe plusieurs, organisées par différentes églises. Ça peut être un bon début. Sinon, il est important de rejoindre un groupe, c'est-à-dire de fréquenter régulièrement un groupe, parce que ça permet vraiment d'avoir une motivation. Je crois que c'est important, la motivation, et d'être soutenu par des frères et des sœurs. Si on veut méditer tout seul chez soi 365 jours sur 365, sans lien avec personne, ça risque d'être compliqué. Il peut y avoir des moments de démotivation.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Frédéric Fournier, parce que effectivement, quand on dit que la méditation, c'est être en silence avec Dieu, on pourrait penser qu'on pourrait être en silence tout seul avec Dieu, finalement. Et donc, c'est vrai qu'on peut peut-être avoir... ça peut être difficile, peut-être, de comprendre ce besoin de méditer en groupe. C'est-à-dire, quel intérêt à être en silence en groupe ? Souvent, quand on est en groupe, c'est pour discuter, c'est pour échanger. Quel intérêt à être silencieux en groupe ? Qu'est-ce que ça apporte dans une pratique méditative ?
J'anime, on en reparlera peut-être, un groupe de méditation chrétienne sur Paris. Et l'expérience qui est faite par les méditants, ils me disent tous, c'est « mais quand on se retrouve en groupe, il se passe quelque chose ». C'est-à-dire on retrouve une motivation et ça devient plus facile. Hein, comme si on reprenait en quelque sorte une force qui nous permet de méditer quotidiennement, après, seul, mais en tout, mais jusqu'à notre prochaine rencontre.
Est-ce que ça apporte une discipline peut-être, ou peut-être que le mot est peut-être un peu trop
une
dur.
Une discipline, et puis le fait d'être avec des frères et des sœurs qui ont la même assaise, exercice, ça aide vraiment à se motiver, puis à avancer dans le chemin de la méditation silencieuse.
Alors, votre groupe sur Paris, il se réunit où et quand ?
Alors, c'est pas mon groupe, merci, ça me flatterait.
Excusez-moi, non.
Oui, non. C'est un groupe qui est animé par... nous sommes cinq, en fait.
D'accord.
À l'animer. C'est un groupe régional, c'est-à-dire pour l'Église protestante unie de région parisienne, donc luthérien et réformé. Il se réunit tous les mercredis à l'Église Saint-Jean, l'église protestante unie Saint-Jean, qui est au 147 rue de Grenelle, métro La Tour-Maubourg. Et on se réunit tous les mercredis, en dehors des... Enfin, sauf pendant les vacances scolaires, tous les mercredis, de 20h à 21h. Et nous sommes donc cinq à animer ce groupe. Nous sommes quatre... Sur ces cinq, il y a quatre pasteurs, tous... très aguerri à la méditation. Enfin, on ne peut que transmettre ce qu'on a expérimenté. Sinon, c'est pas sérieux. Donc, nous sommes quatre collègues. Vous avez le pasteur Balestier, vous avez le pasteur Serge Vutriche, vous avez le pasteur Jean-Christophe Perrin. Donc, vous voyez, là, on est vraiment plusieurs réformés, plusieurs et un luthérien. Et puis, vous avez Marie-Pierre Heller, qui a un diplôme universitaire de méditation à Strasbourg.
Oui, c'est Strasbourg, je crois, qui délivre
absolument,
un diplôme universitaire
absolument.
De méditation.
Mais nous, c'est vraiment de la méditation chrétienne. Mais nous proposons trois méthodes. La première, c'est la méditation concentrative. Donc ça, moi, c'est le groupe que j'anime avec le pasteur Perrin, où on est vraiment centré sur un objet ou sur un son pour apaiser nos pensées et entendre cette voix de Dieu, communier avec Dieu. Ça, c'est la première méthode qui est proposée. Vous avez la deuxième, qui est la pleine présence, c'est-à-dire être ouvert vraiment à ce qui advient pour communier avec Dieu. Et puis la troisième, c'est la prière du cœur, l'invocation du nom de Jésus, hein, qui est une longue tradition orientale et orthodoxe qu'anime mon collègue, le pasteur Serge Wüttrich. Tous les mercredis, ça, bien sûr, tout le monde est le bienvenu, débutant ou pas débutant, et j'en profite pour donner l'adresse de notre site mail, www.méditandieu, avec un seul E, méditandieu.org.
Donc www.méditandieu,
avec un seul
tout attaché,
oui.
.org,
oui.
Et donc c'est tous les mercredis,
oui.
À l'église luthérienne Saint-Jean.
Absolument.
À Paris, à quelle heure?
À 20h.
À 20h. Merci beaucoup, Frédéric Fournier,
merci à
pour
vous.
Toutes ces informations sur la méditation chrétienne. Et j'espère que de nombreuses personnes pourront se rendre aux séances de méditation à l'église luthérienne Saint-Jean à Paris. Yeah.